Le bonheur en musique, Edith Walter.
Le bonheur, eh bien, aujourd'hui, ce sont des sonates françaises de Fauré, Saint-Saëns, Franck, avec ceux qui les interprètent, Saskia Le Thiec et Jérôme Grandjean. Bonjour Saskia.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
C'est formidable de voir notre patrimoine dans des mains comme les vôtres. Parce que cette musique-là, curieusement, sont plutôt moins connues que les œuvres très romantiques germaniques. Vous êtes d'accord?
En effet, et c'est vrai que c'était même le propre, c'est ce qu'avait souhaité Saint-Saëns en fondant sa Société nationale de musique, de vouloir promouvoir l'essor de la musique de chambre française. Et donc il a passé, et ensuite il a convié Fauré, et ensuite Franck, c'était un petit peu différent, mais il en a fait partie, et il se battait pour vraiment faire connaître toutes les compositions dites contemporaines de l'époque française.
Oui, et c'est vraiment dommage. Il est évident que les Allemands font plus de choses pour leur musique que nous. Enfin, ça s'arrange depuis quelques années. Mais c'est dommage que ce patrimoine complètement merveilleux, que vous allez décrire dans leur spécificité, soit pas suffisamment connu, pas suffisamment interprété. Je pense que Jérôme Grandjean pense la même chose. Elle a un énorme succès.
Elle est quand même, voilà.
Mais la musique de chambre et sa symphonie.
Et voilà.
Sont très connues.
Et avec Saskia, on l'avait joué. C'est même été le début de notre duo, cette sonate. On connaissait la première sonate de Fauré, mais on connaissait très mal la première sonate de Saint-Saëns. Et quand on a cherché un petit peu quel couplage faire pour ce disque, il nous est d'abord apparu que c'était une œuvre mais magnifique, absolument magnifique. Qui avait vraiment du sens de la mettre avec les deux autres, parce que on peut dire que chacun a entraîné l'autre. Hein. Le plus jeune Fauré a été le premier à écrire sa sonate, puis il y a eu Saint-Saëns qui s'y est mis à peu près 5 ans après, et ensuite pour finir Franck. On a été vraiment, c'était une grande découverte cette sonate de Saint-Saëns. Comme en plus cette année on célèbre le centenaire de sa disparition, on est d'autant plus heureux de le mettre dans ce programme, voilà, d'y participer, et surtout de voir que ce couplage semble-t-il n'existait pas encore au disque.
Alors, Saskia, j'ai pas pu aller à ce concert, mais je sais que vous avez donné récemment des concerts avec ce même programme, que ça a eu beaucoup de succès. Dites-moi, vous, ce que vous en gardez comme impression.
Oui, c'était magnifique parce qu'on a eu donc la chance de jouer dans la salle Erard. Donc c'est dans cette salle qu'on a enregistré le disque. Et donc là où étaient ces trois compositeurs, comme je vous le disais en permanence, c'était vraiment un centre pour cette musique française, une musique de chambre. Et ce qui m'a fait très très plaisir, c'est qu'on a beaucoup de collègues qui étaient curieux de ce programme. Et alors comme toujours, ils disaient ah oui, Franck, ils étaient ravis. Comme vient de dire Jérôme, il la connaissait. Mais j'ai plusieurs collègues violonistes aussi, notamment très curieux, et qui ont dit, mais ravi de découvrir cette sonate de Saint-Saëns, qu'en effet, on ne connaissait pas. Donc ça, on est heureux, et puis ils l'ont apprécié. Donc c'est pour ça, c'est tout notre travail. Et notre récompense, c'est quand vraiment, on sait qu'elle va être diffusée. Et je pense que du coup, d'autres vont la jouer, et donc elle continuera.
Alors, j'aimerais quand même que vous parliez de vous. On a parlé des œuvres, de vous. Vous faites l'un et l'autre des carrières extrêmement diverses. J'entends par le fait que via ce duo qui n'est pas son premier disque, en tout cas son premier concert. Et puis il y a aussi un trio, puis il y a aussi un quatuor. Tout ça, c'est Saskia Le Thiec. Et Jérôme, vous aussi, vous participez à ce duo, évidemment, mais à d'autres formations de musique de chambre,
oui,
en tant
alors,
que...
Donc l'histoire de notre duo, c'était d'abord un trio, effectivement le trio Bocken, avec qui on a beaucoup joué, enregistré, et puis en fait est venue l'idée de parallèlement à ce trio de jouer en duo avec Saskia, et voilà. Et donc c'est vrai que ce disque c'est l'aboutissement d'un cheminement. Et à côté de ça, évidemment, on a nos carrières de
complètement
de voilà de soliste
en dehors,
voilà, en dehors, exactement. Là, moi en ce moment, je suis sur le projet de, après l'avoir enregistré, de donner sur une journée l'intégrale du clavier intempéré de Jean-Sébastien Bach.
L'intégrale, redites ça plus lentement.
L'intégrale des deux livres, oui.
Des deux livres,
oui, qui sera donné prochainement le 17 octobre dans la salle du conservatoire, conservatoire dramatique.
Alors, voilà. Moi, je vais dire à mes auditeurs qui ne connaissent pas tous, moi, je sais quand même pas mal travailler. C'est vraiment d'abord très difficile techniquement parce que c'est dans toutes les tonalités, il y en a pas deux pareils. Au point de vue mémoire, c'est vraiment pas simple du tout. Et puis spirituellement, musicalement, c'est tellement difficile à interpréter parce que c'est une musique de l'essentiel, de la beauté de l'essentiel, et les jouer tous comme ça, ça suppose une concentration et une mémoire gigantesque.
Alors c'est un énorme travail, ça c'est sûr, mais je pense que ça a du sens. Vraiment, je crois que ça a du sens de l'entendre sur une journée, parce que c'est ça ne se répète jamais comme musique. Voilà, ça ne se répète jamais, donc ça, voilà, ça sera.
Ah oui,
une autre expérience.
Saskia, oui.
Si je peux rebondir. En fait, j'avais eu la chance d'entendre Jérôme. Il l'avait donné Sal Corto. Donc, c'était le premier livre. Et moi, je ne l'avais jamais entendu, justement, en concert, en entier. J'écoute très souvent, depuis toute petite. Ça me nourrit, comme vous disiez, c'est une musique essentielle. Et je suis ressortie du concert. Je n'ai pas pu parler. J'étais avec un ami, compositeur, une autre amie, pendant 20-30 minutes. Tellement ça fait vraiment une traversée spirituelle. C'est incroyable. Et c'est vrai que d'avoir... On se dit, est-ce qu'on va être capable aussi de recevoir autant d'intensité? Mais en fait, c'est comme il dit, c'est tellement construit avec cette arche incroyable qu'on est pris et on est vraiment transformé. Et alors, quand j'ai su qu'il faisait le deuxième livre qu'il enregistrait, et j'avoue que je me suis permise d'influencer un tout petit peu Jérôme, de lui dire, mais il faut absolument que tu donnes ça en entier, ça sera quelque chose d'extraordinaire pour le public et pour lui-même.
Exploit.
Et c'est vrai que c'est assez rare, et je suis très très heureuse qu'il ait accompli, parce que c'est vrai que c'est un travail hors norme.
C'est incroyable, ces musiciens, ces interprètes, parce que quel cerveau, oh là là, pour apprendre ça comme ça. Saskia, vous consacrez toujours du temps au duo, au trio, au quatuor?
Ah oui, c'est vraiment c'est mon ancrage. Le quatuor à cordes, c'est mon ancrage spirituel, harmonique. Et puis j'ai la chance d'avoir trois collègues extraordinaires. On se connaît depuis 7 ans et on s'est créé vraiment pour jouer l'intégrale des quatuors de Haydn. Donc c'est quand même une démarche. Hein. Il y en a 64. Mais on s'est dit, on joue chaque trimestre dans deux lieux. Et donc on avance comme ça chaque année et on se retrouve, et c'est vraiment une rencontre philosophique. Voilà, c'est pour ça. Et après, à côté, je joue beaucoup de musique romantique, moderne, je participe à des créations contemporaines et je joue régulièrement avec Jérôme. C'est mon autre ancrage, on va dire, musical.
Une sorte de base.
Hein. C'est ça, en fait, c'est vraiment mes deux socles. Et après, par contre, je joue dans des sextuors, en trio, je peux jouer en soli, je peux jouer dans plein de choses différentes.
Vous faites une très belle carrière tous les deux. Mais c'est quoi tu de Haydn, c'est une merveille, parce que c'est aussi des sommets dans le genre.
Oui, puis c'est le maître du quatuor pour tous ceux. On a un peu commencé l'intégrale des quatuors de Mozart en même temps, parce qu'on sent tellement l'influence de l'un et l'autre que voilà,
c'est vraiment le même langage musical. Il se trouve que hier, j'entendais le trio de Ravel. On se dit, il n'y a pas d'héritier vraiment avec cette musique-là. Alors que c'est vraiment le même langage à ce moment-là, Haydn et Mozart.
Ils viennent de la même source. Après, il y a l'humanité de Mozart, son esprit, sa flamme, mais on sent, il y a vraiment certains quatuors de Mozart, on sent, c'est des reprises, et après avec sa façon, c'est ça qui est extraordinaire. Mais on sent l'hommage au maître, quoi. Enfin, c'est comme Beethoven aussi, en fait. Il est présent, Haydn est... extraordinaire et d'une et à la fois d'un esprit, d'un imaginaire, d'un humour, tout. Enfin,
c'est vrai.
Ah oui, on s'en lassera jamais, je pense.
Alors, on vous entendra dans cette radio, j'espère bien, avec un équateur de Haydn et vous-même plus tard.
Plaisir, merci.
Rendez-vous est pris. Donc, ce que Jérôme, en 30 secondes, vous nous parlez de cette sonate de Poret parce que je tiens absolument à ce que mes chers auditeurs écoutent des extraits de ce disque qui est une merveille. Donc, vous nous parlez de cette sonate pour violon et piano. C'est la numéro 1 en la majeure,
oui,
de Poret. Et vous nous la présentez un petit peu.
Alors, en quelques mots, ben c'est sa première grande œuvre, hein, puisque avant cela, il a écrit quelques
on dit
mélodies.
Que la première manière est plutôt moins élaborée que à la fin de sa vie. Mais cette sonate suffit en elle-même.
C'est un coup de maître. C'est une première œuvre importante. C'est un coup de maître incroyable porté par un élan, un lyrisme, quelque chose qui on s'était dit avec Saskia en le jouant que c'est presque un sentiment d'ivresse qu'on a et qu'on peut communiquer aux auditeurs.
Ah,
tant mieux. C'est vraiment, et je dois dire que c'est encore plus flagrant au niveau des couleurs, du parfum de cette musique, du fait qu'on a fait la démarche de le jouer sur instrument historique, c'est-à-dire pour ma part sur un Erard de 1875 et pour ma part,
j'ai monté mon garçon un violon français sur boyau, tout boyau. Ouais. Donc ça.
On écoute un extrait de cette sonate pour violon et piano numéro 1 en la majeure, opus 13. On pourrait entendre le troisième et quatrième mouvement.
Thank you.
C'était le troisième et quatrième mouvement de la sonate pour violon et piano numéro 1 en la majeure, opus 13 de Forêt. Et je rappelle que c'était Saskia Le Tiec qui était au violon et Jérôme Grandjean au piano. Alors, j'ai entendu dans une interview de vous, je crois que c'est Saskia, les raisons de regrouper ces trois sonates, que ce soit Forêt, Saint-Saëns et Franck, qui sont sur ce disque. Dites-moi avant qu'on dise, pour que nos auditeurs puissent commander ce disque, il est chez Cascavel.
C'est ça, label suisse Cascavel.
Voilà, alors ça, on le trouve vraiment partout.
Oui, c'est vraiment, il est très très bien distribué dans tous les magasins importants, toutes les plateformes, sur Internet.
C'est un très bon éditeur, Cascavel.
Et puis tout son catalogue est très beau.
Oui, très beau catalogue.
Et le directeur est vraiment passionné, musicien, et très très professionnel. C'est un plaisir de travailler avec lui en plus. Et puis soit il se livrait, c'est un très très beau travail.
Alors, vous justifiez tout à fait le fait de réunir ces trois sonates de musique française pratiquement de la même époque.
Oui, parce que comme disait un petit peu avant Jérôme, on a l'influence déjà de Saint-Saëns, le maître de Forêt, et Saint-Saëns a fait énormément pour Forêt, pour qu'il soit connu dans le milieu parisien, parce que Saint-Saëns avait une place énorme, il était joué partout, et donc il a énormément porté Forêt. Donc déjà, c'est quand même le maître et l'élève. Après, évidemment, que c'est devenu un maître Forêt, mais on sent déjà dans la sonate de Forêt, justement, qu'il a tout, que le potentiel est là, et c'est comme disait Jérôme, c'est l'ivresse, c'est la jeunesse, et ensuite d'entendre Saint-Saëns. Et ce qui est fou, c'est que Forêt l'a écrit avant sa sonate, et Saint-Saëns a écrit une sonate après, mais avec toute sa maîtrise du grand Saint-Saëns et de sa maîtrise comme soliste pianistique. Ça sent dans le jeu, d'ailleurs. Moi, j'adore entendre Jérôme sur les rares, parce qu'on sent la volubilité, ça fait l'expression. Enfin, Saint-Saëns, c'est un magnifique pianiste, et nous aussi, c'est un plaisir à jouer. On a plein d'œuvres qu'on entend tout le temps, le fameux Rondo Capriccioso, et puis la Havanaise. Et là, c'est un autre monde, en fait, la musique de chambre de Saint-Saëns. Pour ça, j'étais très heureuse aussi de la faire, de la porter
au violon. Une découverte pour tout le monde.
Vraiment, je pense.
Une découverte pour tout le monde, mais je trouve que cet anniversaire de 100 ans de sa mort, c'est une découverte pratiquement dans tous les concerts. On connaît très mal Saint-Saëns.
Oui, on connaît la symphonie pour orgue, les grandes œuvres comme ça.
Un opéra.
De piano, un opéra. Mais même les concertos pour piano ne sont pas si souvent
joués. Oui, absolument, ils sont terrifiants, pianiste.
Oui, la musique de chambre, alors, les trios avec piano avaient été déjà enregistrés, les sonates aussi, mais pas tant que ça. Et ce qui est bien, c'est que beaucoup de personnes et beaucoup de générations différentes se sont appropriées cette musique. Et après, Franck, évidemment, parce qu'à cette époque, c'était quand même le maître, de la musique française, et c'est pareil, il avait une aura. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'était à la fois deux personnages très très différents, Saint-Saëns et Franck. Ils n'avaient pas tout à fait quand même la même esthétique, les mêmes choix parfois philosophiques, mais une grande admiration l'un pour l'autre. Donc ils se côtoyaient, donc ils ont fait tous les deux, ils souhaitaient vraiment, ils avaient une épine, une ferveur de musique de chambre, et puis pour la structure influencée, on va dire, quand même par le langage allemand, il faut l'avouer, surtout chez Franck, mais avec l'esprit français.
Oui, et Franck est quand même un original et a fait beaucoup pour le langage musical, pour son évolution, avec des tas de principes.
Ah oui, sa classe qui était, je ne veux pas dire, c'était une classe d'orgue, il n'a pas eu de classe de composition au Conservatoire de Paris, mais elle était fréquentée par tout le monde, y compris, je crois, Bizet, au moment où il conçoit Carmen, qui est déjà, je crois, près d'une quarantaine d'années, va en auditeur libre dans la classe de Franck, qui était vraiment un lieu de réflexion musicale.
Il va vivre très très vieux, Franck, pardon, Saint-Saëns, puisqu'il meurt en 1921 et qu'il naît en 35 ou 25, je me souviens plus.
J'oublie toujours.
C'est 25 ou 35, ouais. C'est l'un ou l'autre.
Je pense que c'est 35, effectivement.
35, ouais. Donc c'est une très longue vie. Et c'est étrange, ça m'a toujours étonné de me dire que cet homme a vu une évolution musicale, une évolution tout court, parce que avec tous les changements politiques de ce 19e siècle, avec ce tournant complet de la fin du siècle et de la venue de l'abstraction et de la venue d'un langage contemporain musical tellement différent. c'est fou, mais il a passé ça de façon imperturbable, en étant lui-même complètement, et c'est un régal de l'entendre, Saint-Saëns.
C'est un personnage énigmatique, hein, Saint-Saëns, dans son histoire. Dans sa musique, c'est étonnant parce qu'il a d'abord été vraiment considéré comme très moderne. On le reprochait d'être un wagneriste. Et puis à un certain moment, évidemment, après, je veux dire, il a été là bien avant Debussy, il a été là après Debussy. Tout d'un coup, il est passé pour un peu compositeur appartenant au passé, et c'est certainement participé au fait que sa musique en France, en tout cas, a été longuement jugée.
Arriérée.
Oui, un peu, voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est ce qui nous a frappé en la travaillant.
Parce qu'elle est tellement belle en elle-même, on s'en fiche.
Ouais.
Si c'est à ce moment-là qu'on commence à parler du dodécaphonisme, on s'en fiche éperdument. Ouais. Parce que c'est une beauté en soi.
L'émotion est là. Il tenait à un style très, très classique. Il est attaché vraiment à l'antiquité, aux formes anciennes. Et il ne voulait jamais toucher à ça. Et que l'émotion se dégage, mais sans toucher à cette forme. Il avait vraiment des principes très forts, mais ça n'empêchait pas, comme vous dites, que la poésie, l'émotion soit véhiculée.
Et je trouve qu'à sa manière, c'est un original. Et ça se sent dans sa musique. Pour
bien
moi, c'est une musique.
Il a vraiment une chose à dire qui n'en ressemble à rien d'autre.
C'est vraiment un original.
Alors, ce que j'aimerais, c'est que l'un et l'autre, vous me disiez comment se portent les duos piano-violon. Est-ce que c'est plus facile en tant que violoniste de jouer en trio, en quatuor qu'en duo? Est-ce que c'est plus facile de jouer même en concerto? Et vous, le pianiste qui avait un répertoire si vaste, est-ce que vous trouvez que votre duo, une question directe, votre duo marche très bien?
Comment dire, oui, je pense. Alors, à la fois, c'est vrai qu'on a plus de vécu en trio avec piano. On a vraiment beaucoup joué et voyagé. Et moi, j'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de duos, mais alors c'était il y a longtemps, quand j'étais au CNSM en troisième cycle.
Toute jeune, pourtant, Saskia.
Non, il y a longtemps. Et donc, j'ai beaucoup joué ce répertoire. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie, après, d'y retourner, parce que j'avais vraiment beaucoup étudié ce répertoire, avec Christian Ivaldi, notamment.
C'est d'une richesse incroyable, piano-violon.
Il y a tout, il y a la connivence, à la fois, il y a quand même beaucoup de jeux expressifs, surtout si on a la chance de jouer un peu en soliste.
C'est une musique intériorisée.
Oui, et à la fois extérieur, enfin les deux, il y a la communication avec le pianiste. Le pianiste a une très lourde partie, mais à la fois il est toujours à l'écoute. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me. Et pour revenir à votre question, là il s'avère qu'on est porté par ce projet, et c'est vrai que je pense, comme on l'aime, qu'on est passionné, finalement on a l'impression que les portes s'ouvrent, parce que je pense que les personnes sentent l'envie. Bon, c'est vrai qu'on y a passé beaucoup de soins, puis qu'on a quand même beaucoup de vécu musical maintenant, donc. On peut, et je pense qu'on sent, et donc j'ai l'impression que oui, en tout cas, on peut se produire en concert, en duo, autant qu'en trio. Quand tu raccordes, c'est sûr que bon, après, il y a d'autres lieux, c'est presque plus facile parfois parce qu'il n'y a pas le piano, c'est sûr. Mais le duo, le piano, les personnes, le public aime le piano. Et le mélange cordes et piano, je pense qu'on s'en lassera jamais.
Ouais. Pardon.
Non, je vous en prie, Jérôme.
Si, pour répondre à votre question, effectivement, je crois beaucoup maintenant que ce que les gens sentent, c'est quand on propose un projet. Et je pense que notre projet, c'est trois compositeurs, l'unité de temps, un peu de style, le fait qu'on les fait sur instruments historiques, ça a l'air rare. Il y a quelque chose, je pense effectivement, qui fonctionne un petit peu. Et ensuite, pour la question de savoir si c'est plus difficile, le trio, le duo, en fait, c'est difficile de répondre, parce qu'il se trouve qu'on s'entend très bien avec Saskia. Donc ça se passe, en gros, toujours très bien.
On vous écoute dans un extrait de cette sonate. On a parlé de Saint-Saëns, donc cette sonate pour piano et violon numéro 1, en ré mineur, l'opus 75. Et là aussi, j'ai choisi de faire entendre le troisième et quatrième mouvement de cette sonate de Saint-Saëns. Thank you.
Thank you.
C'était Saskia Le Thiec au violon et Jérôme Grandjean au piano. Je propose de rappeler que c'est le disque Cascavel, ou plutôt l'éditeur Cascavel, qui a édité ce disque que vous pouvez trouver partout. Voilà, et je rappelle que on a pu entendre Forêt et Saint-Saëns. On va parler maintenant de Franck. Alors, la sonate de Franck, bon, elle est merveilleuse, c'est un chef-d'œuvre, mais elle a eu très vite un succès considérable. Qui en parle?
Tu commences cette fois-ci.
Oui, c'est. Je pense qu'elle fait partie de ses œuvres. Ça les rend pas forcément plus belles que les autres, mais qui ont une sorte de portée universelle. C'est un phare pour moi, une œuvre comme celle-là. Et c'est quelque chose qu'on ressent très fortement quand on la joue en concert. C'est-à-dire que
il y a un lyrisme.
Il y a un lyrisme, il y a un sentiment, en même temps, il y a une construction qui est absolument parfaite. Il y a quelque chose qu'on sent qui passe immédiatement avec le public, qui représente aussi une somme, même de quelque part peut-être de tout un style qu'il a précédé. Hein. Il a mis du temps à écrire cette sonate pour violon, mais on a l'impression que après ça,
difficile d'écrire piano violon.
Ah ben oui, ou alors complètement différemment, comme le fera Debussy, comme le fera Ravel. Ensuite, c'est autre chose. Après, c'est autre chose.
J'imagine que vous jouez aussi la sonate de Debussy.
Ah oui, ça, oui, oui. On la joue, oui, oui. D'ailleurs, on s'est dit, ça, oui, oui. Ça, et d'être reparti dans un programme musique française, comme ça, on s'est dit, il faut absolument qu'on la rejoue, justement.
Oui, mais c'est très bien d'avoir réuni ces trois sonates, parce que c'est totalement différent, cette sonate de Debussy, dans l'évolution du langage musical, et Debussy est complètement à part. Alors que ce que vous dites est juste, ces trois compositeurs sont très bien ensemble.
Oui, il y a un lien quand même encore dans le style, dans le langage, dans la période historique même, comme vous l'avez dit aussi, même si Saint-Saëns a continué à vivre jusqu'au début du XXe, il appartenait encore à cette histoire, à ce langage. Tandis que Debussy, là, on sent que voilà, ça change le monde. Donc c'est vrai qu'on n'aurait pas pu enfin, en tout cas, on ne souhaitait pas les porter. On ne peut pas les associer, en fait.
Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, j'ai dit cocorico parce que j'aime tellement l'art français, et j'aime tellement cette musique française qui n'est pas assez souvent jouée. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme?
Ben, je pense effectivement qu'il y a eu, ben déjà historiquement, hein, jusqu'à la Société nationale de musique, donc jusqu'à c'est né sur la défaite de la guerre de 1870. La musique française n'est pas sérieuse. Hein. Il y a la fameuse anecdote de Brahms disant « Es gibt kein französischer Komponist ». Il n'y a pas de compositeur français. Ce qui n'a pas pensé ensuite, puisqu'il a adoré, Carmen. Il l'a vu, je ne sais plus, 15 fois. Il était dingue de Carmen, ce qui est amusant.
Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, un envahissement de la musique allemande.
Ouais.
Bon, et puis Wagner va aussi susciter.
Alors voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et je dirais que ces trois compositeurs, ils ont tous les trois certainement été influencés par Wagner, et en même temps, ils sont restés eux-mêmes.
Tellement français,
comme ouais, c'est tellement eux-mêmes, et y compris Franck, qui est peut-être le plus nordiste du fait de ses origines belges, mais il est quand même aussi à sa manière très français. Il y a quelque chose dans le parfum de cette musique, dans la clarté aussi, une forme de charme aussi, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu dans cette période-là, je pense, autour de la Société nationale de musique, quand même énormément d'interactions entre tous ces compositeurs, mais même pour certains qui peut-être se jalousaient un peu. On sait que les relations étaient compliquées entre Saint-Saëns et Franck, mais il y a quand même énormément d'interpénétration, et en même temps chacun a sa personnalité, et il y a des périodes comme ça qui sont un peu des périodes d'un peu bénies de la musique.
Oui, et puis je dirais que cette forme de musique piano-violon, c'est vraiment la vie intérieure. C'est quelque chose qu'on peut entendre, qu'on peut avoir. C'est une musique de chevet, vraiment. C'est quelque chose. On n'écoutera pas, par exemple, du Stravinsky avant de s'endormir, à mon avis.
Oui. C'est vrai qu'il y a un monde très intime.
Oui.
On peut aller très très loin dans l'émotion intérieure.
Oui.
Et à la fois, il y a des grands passages brillants, comme vous avez choisi. Les finales, mais du coup, il y a une grande variété d'émotions. Et quand vous dites, on peut l'écouter chez soi, justement, ça a du sens aussi en disque, dans son salon. Enfin, je veux dire, c'est des moments d'intériorité.
C'est peut-être vraiment un disque de chevet, je trouve. Ouais. C'est un disque de chevet parce que on ne se lasse pas d'entendre ça. C'est une musique qui vous émeut dans l'âme et qui ne vous chahute pas, si je puis dire. C'est une espèce de lumière
douce. Oui, il n'y a pas besoin de circonstances propres pour l'écouter.
Oui, absolument.
Voilà. Vous pouvez vous poser.
Oui, absolument, ça c'est
et vrai. Vous pouvez trouver différents états aussi.
Il y a une subtilité vraiment très forte, je trouve, chez ces compositeurs. Et puis, on sent aussi probablement, c'était quand même une période où la musique se faisait beaucoup dans les salons. Il y a quand même cette notion. Alors, un salon, ça pouvait être. Il y avait des salons qui étaient petits, puis il y en avait qui étaient beaucoup plus grands, bien sûr. Mais il y a vraiment cette notion de partager la musique où on pouvait être alternativement dans le public, puis se retrouver au piano en train de jouer. Je pense que ça crée aussi un état d'esprit, une atmosphère qu'on sent dans cette musique.
Absolument. Je vous propose de terminer avec Franck, bien sûr. On va entendre donc la sonate pour piano et violon en la majeur de Franck. Et cette fois-ci, j'ai choisi le second mouvement. C'était la sonate pour piano et violon en la majeure de Franck, le second mouvement. Et je rappelle que ce disque qui contient Forêt, Saint-Saëns, Franck, est interprété par Jérôme Grandjean au piano et Saskia Le Thiec au violon. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver ces musiciens et leurs disques merveilleux longtemps en podcast. Et puis moi-même, la semaine prochaine. Au revoir.